Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau des experts. Au sommaire ce matin, faut-il réguler l'intelligence artificielle? Un groupe d'experts et de chefs d'entreprise, notamment le créateur de ChatGPT, lance un avertissement sur les dangers de l'intelligence artificielle. Il pointe notamment un risque d'extinction de la race humaine face à un danger similaire aux pandémies et à l'arme nucléaire. On va en débattre dans un instant. Davantage de transparence pour limiter la pollution, c'est l'appel d'une organisation britannique, CDP. Elle est spécialiste des données environnementales. Elle demande aux 1600 entreprises les plus polluantes de publier leurs données extra-financières. Appel soutenu par pratiquement 300 institutions financières. On verra pourquoi. On se posera également la question, est-ce qu'il faut réinstaurer l'ISF pour financer la transition, l'ISF vert? C'est une proposition de l'économiste Jean Pisani-Ferry dans un rapport remis à la première ministre Elisabeth Borne. Et puis on parlera aussi de la dédollarisation. Est-ce que le mouvement est vraiment en train de s'accélérer? C'est un vrai serpent de mer, on en parle depuis longtemps. Mais pourquoi le contexte aujourd'hui est-il différent? On écoutera l'avis de nos experts. Vous le savez, vous pouvez participer au débat. Envoyez vos questions, vos commentaires sur Twitter @StephPedrazzi. Je me ferai un plaisir de les relayer auprès de nos invités. Et nos trois experts ce matin en plateau, Nathalie Janson, professeure à la Neoma Business School, bonjour.
Bonjour.
Jésabelle Coupet-Soubéran, bonjour également. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen. Et bonjour. Patrick Artus, directeur de la recherche bonjour. Économique de Natixis, co-auteur de L'économie de l'abondance à l'économie de rareté. C'est aux éditions Odile Jacob. Oui. Et bonjour à vous également. Cette question donc ce matin, faut-il réguler l'intelligence artificielle après une tribune particulièrement virulente, on va dire, d'un groupe d'experts et de chefs d'entreprise, dont le créateur de ChatGPT, qui nous parle des dangers de l'intelligence artificielle. Nathalie Janson, qu'il y ait des interrogations sur les dangers de l'IA, on peut le comprendre, mais lorsqu'on compare l'intelligence artificielle à l'arme nucléaire, comme le fait le patron de ChatGPT, on peut quand même se poser des questions.
Oui, alors avant toute chose, je ne suis pas une experte de l'intelligence artificielle, mais ce qu'on peut en tout cas voir dans ces débats, c'est effectivement la peur de l'inconnu. Donc voilà, donc si on veut faire effectivement des parallèles, on a un peu l'impression qu'on est devant une espèce de Frankenstein qu'on aurait nous-mêmes bâti et puis on ne sait plus par quel bout s'en sortir. Je pense qu'il y a beaucoup de pessimisme, alors peut-être que ceux, à juste titre, les experts au sein qui ont été à l'origine de ChatGPT et puis pareil sur d'autres, enfin ceux qui travaillent chez Google, pareil, vous aviez un scientifique très très connu qui s'appelle Monsieur Hinton de Google, qui a aussi alerté. Alors lui, il a plutôt mis ça sur ça va rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. C'était ça.
Un facteur d'inégalité.
Voilà. Exactement. Donc lui, il est quand même voilà, il va un peu moins dans le discours horrible de fin du monde que certains prétendent. Je pense que comme dans toutes les grandes innovations, et effectivement c'est une innovation de rupture, ça peut faire peur. J'ai peut-être la faiblesse de penser qu'en tant qu'être humain, on aura une capacité à y répondre et qu'on sera plutôt raisonnable par rapport à ça, et que de toute façon l'innovation va répondre à l'innovation. C'est surtout ça que je pense qu'on sous-estime. Et il ne faut pas oublier que dans l'intelligence artificielle, dans le problème de la machine, se pose des problèmes de responsabilité et à nouveau, même si c'est pas mon domaine, mais je me risque à quand même évoquer le fait qu'on se faisait tout un monde de l'arrivée de la voiture autonome et que effectivement, le fait la voiture autonome pose tout un problème de savoir qui est responsable dans certaines situations et que ça fait partie des freins qui expliquent pourquoi aujourd'hui, en fait, elle est toujours quand même pas là. Donc voilà. Donc moi, effectivement, peut-être que je suis beaucoup trop naïve et un peu trop optimiste, mais je me dis que c'est très bien d'avoir des lanceurs d'alerte, hein, de dire que voilà que ça fait peur. Mais j'ai la faiblesse de penser que de toute façon, on n'est qu'au début et que du coup, le pire ne sera peut-être pas. Il n'y aura peut-être pas tout de suite.
Jésabelle, l'être humain s'est toujours inquiété des évolutions technologiques, notamment en termes de conséquences sur les emplois. On peut citer quelques exemples. Lorsque les robots sont arrivés dans les usines, on nous disait tous les ouvriers vont disparaître. Lorsque l'électricité est arrivée, on nous disait ça va faire disparaître les allumeurs de réverbères. bon, ils ont effectivement disparu. Et puis il y a l'informatique aussi qui a été une révolution. Pour autant, on a tous un travail.
Oui, comme Nathalie, moi j'ai aucune expertise hein, sur le sujet, sur l'intelligence artificielle.
Et c'est plus une question philosophique.
Oui, c'est une question philosophique, effectivement, mais pour l'instant on est plutôt dans une phase, je dirais, de circonspection, c'est-à-dire que on observe ce nouveau développement. Est-ce qu'on est à l'aube d'une grande rupture technologique, peut-être. Comment est-ce que on va se saisir de cela et comment est-ce que on peut encadrer l'usage de ça? Je n'en sais absolument rien. C'est-à-dire que quelle forme peut prendre la régulation en fait de ce type de rupture technologique, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que dans la fameuse alerte lancée là par les créateurs de ChatGPT, il y a certes cet appel à réguler l'usage. Alors sous quelle forme, on n'en sait trop rien. Et pour aussitôt nous dire, mais quand même attention, il faut réguler, mais pas trop, parce que sinon, eh bien, ce que vous interdirez à un endroit, eh bien, on ira l'utiliser à un autre endroit. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de m'interroger un peu sur la sincérité, en fait, de l'appel en question.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation lorsque ces critiques viennent des créateurs ou de l'un des créateurs de ChatGPT? Est-ce que c'est pas une façon de dire il faut réguler pour freiner mes concurrents?
Oui, il y a peut-être un peu ça. En tout cas, on sent bien que c'est aussi pour guider la régulation en la matière et pour la freiner d'une certaine manière. Enfin, c'est un appel à une régulation qui ne soit pas trop forte. Mais encore une fois, moi je parle un peu dans le vide là, hein, parce que quelle forme pourrait prendre de toute façon cette régulation,
cet encadrement? Personne n'en sait rien. L'une et l'autre, vous êtes professeur. Oui. Est-ce que vous êtes confronté au quotidien de l'utilisation de ChatGPT par vos élèves?
Bah justement, j'allais y venir. En fait, je pense qu'on va voir. Enfin, là, je pense qu'on est, comme on vient de le dire, on est tout au début et il va y avoir des dispositions qui vont être prises par, effectivement, les universités, enfin, les différentes écoles, puisqu'on est confronté. Jusqu'à maintenant, on avait un outil qui s'appelait Urkund pour nous dire d'où venaient les sources, mais effectivement, confronté à ChatGPT, je pense que Urkund va être un peu déboussolé, va se dire alors c'est quoi ça? Donc je ne suis pas sûre qu'il soit armé, cet outil qui aidait à reconnaître s'il y avait effectivement un recopiage de textes existants. Je ne sais pas effectivement comment il va pouvoir gérer ChatGPT. Donc moi pour le moment effectivement je m'en sers pour savoir quand j'ai des doutes sur la façon dont est écrit un texte. En tout cas je trouve qu'il a il est pas assez, il y a pas assez de fautes ou ça reflète pas assez l'étudiant tel que je le vois dans ma salle de cours. En fait, je vais regarder à quel point ça pourrait être similaire en posant la question qui a été posée auquel l'étudiant répond. Alors évidemment, c'est pas dans salle de cours hein, qu'il peut l'utiliser, mais c'est quand on a un devoir maison et c'est de voir effectivement à quel point il peut emprunter des similitudes dans la façon dont ça a été répondu. Mais c'est un sujet dont on s'empare, c'est-à-dire qu'on a effectivement un groupe au sein de Neoma comment est-ce qu'on fait avec ChatGPT? Comment on le prend en compte?
Est-ce que ça développe pas une forme de pensée unique?
Ah si, complètement. Je crois que ça, c'est quand même un des gros risques. Il y a une phrase que j'aime bien, qu'on attribue à Gandhi, je crois, qui est « L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se pratique et se multiplie ». Et je pense que, pour le coup, ChatGPT, c'est vraiment un objet qui peut ériger l'erreur en vérité, en la disséminant, en la développant. Donc ça, c'est,
je pense, et de se nourrir de ses propres erreurs.
Exactement. Donc ouais. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est le risque majeur. Après, effectivement, ça nous interroge hein, sur nos modes d'évaluation quand on est enseignant. Mmh. Donner un travail écrit aujourd'hui avec ce type d'outils à disposition. Bon, bah, ça a sans doute beaucoup moins d'intérêt. Moi, je suis pas encore bluffée, hein, quand même. Peut-être parce que je l'utilise mal. Mmh. Je suis pas encore bluffée par ChatGPT. Ça m'a même induite en erreur plusieurs fois. Mais
en tout cas, on est tous concernés. Mmh. On nous dit que ça va révolutionner le monde de l'enseignement, que ça va supprimer le métier de journaliste et que ça va aussi changer pas mal de choses dans le secteur de la finance. Patrick Artus.
Oui, alors mon expérience personnelle avec ChatGPT est quand même extrêmement décevante et c'est une expérience qui est partagée par la plupart de mes collègues. J'ai posé à ChatGPT la question, quelle est la contribution de Patrick Artus à la science économique? Donc, en toute modestie.
Elle est énorme.
Et il a inventé une liste impressionnante d'articles, de livres, etc. que je n'ai jamais écrit.
Je vous rassure, j'ai posé la même question. Oui. Je me suis vu attribuer le prix Albert Londres par ChatGPT, qui est une des distinctions les plus...
Donc, pour l'instant...
Bravo, projection, c'est de la
Mais ça n'est pas le cas.
Donc, pour l'instant, c'est une colossale plaisanterie, quoi, ChatGPT. Et donc, l'intelligence artificielle, faut pas la résumer à ChatGPT, c'est les applications en médecine, c'est les applications en micrométallurgie. Enfin, c'est des choses extrêmement pertinentes. En tout cas, les applications médicales.
C'est bluffant, là, par contre.
Pour détecter un cancer, vous comparez avec l'imagerie médicale, avec des milliers d'imageries. Enfin, c'est extraordinairement puissant comme outil.
Et, donc, utilisé correctement.
Utilisé à bonne fin. C'est extrêmement puissant comme outil. Utiliser n'importe quoi, ça fait n'importe quoi.
C'est pour ça que certains, effectivement, d'ailleurs, quand vous parliez de régulation, s'interrogent effectivement sur la régulation et se disent il faudrait pas que... Enfin, c'est quand même un sujet différent, parce qu'on sent bien que la régulation doit être à nouveau un sujet mondial, d'ailleurs comme beaucoup de sujets dernièrement, hein, parce que quand on voit le climat, c'est mondial, quand on voit les crypto-monnaies, à chaque fois, du coup, c'est un sujet qui devient mondial aussi. Et donc, dans beaucoup d'innovations, en fait, on voit qu'on prend tout de suite la dimension internationale parce qu'en fait on peut plus, enfin ça ne sert pas à grand chose de le faire au niveau national. Et là effectivement beaucoup soulignaient que contrairement par exemple au risque climatique, en fait avec l'intelligence artificielle on a en fait un bénéfice pour l'humanité qui est quand même considérable avec ce que vous rappeliez sur la médecine où là il y a quand même beaucoup d'applications très positives.
Deux petites remarques. On a eu beaucoup d'espoir sur le progrès technologique d'abord au début des années 80 avec les gros ordinateurs. Et puis au milieu des années 90 avec l'apparition d'Internet, ça a eu des applications extraordinaires, mais ça n'a pas empêché un déclin continuel de la productivité. Et donc, croire que ChatGPT ou l'intelligence artificielle va détruire des emplois, il y a quand même une évidence en sens inverse. On a beaucoup plus de création d'emplois avec Internet que avant Internet. Parce qu'il y a des emplois dans la sécurité informatique, dans la conformité, sur les plateformes qui utilisent Internet, etc. Et donc, voilà. Et puis, les travaux empiriques qui sont faits par des économistes sur la robotisation des entreprises montrent que les entreprises qui robotisent créent plus d'emplois que les autres. Donc l'idée que c'est la fin de l'emploi, c'est probablement très faux.
Et là, c'est l'économiste qui parle. Vous pouvez réagir sur Twitter. Maurice nous écrit et nous dit « On a toujours eu peur des évolutions technologiques. Rappelez-vous, en l'an 2000, les ordinateurs étaient censés bloquer la planète.
» Mais je pense qu'effectivement on a une incapacité en fait à, et c'est normal, heureusement d'ailleurs, en fait on a une incapacité à comprendre comment, dans l'utilisation de l'innovation, en fait, quels emplois elle génère. Je pense que c'est l'illustration de ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre en fait ce qui va aller avec l'innovation. Et heureusement, d'ailleurs, parce que ça fait toute la beauté du sujet.
Mais peut-être le problème est que les innovations, alors depuis l'informatique, ont plutôt créé des emplois peu qualifiés. Il y a quand même une parce que le secteur informatique au sens large, le secteur des nouvelles technologies, aux États-Unis, où il est le plus développé du monde, c'est 4% des emplois. Donc c'est extrêmement peu créateur d'emplois. Et alors, vous avez beaucoup plus d'emplois chez Uber, sur les plateformes. Et donc, peut-être que la vraie menace, c'est pas du tout une menace sur le niveau d'emploi,
c'est une menace sur le niveau de qualification du travail.
Et avec un point intéressant et rassurant pour nous, Européens, c'est que d'habitude, c'est l'Union Européenne qui veut réguler. Cette fois-ci, l'appel, il est international. Ça nous rassure. On va passer à notre deuxième sujet qui concerne la transparence environnementale des entreprises. L'organisation britannique CDP demande aux 1600 entreprises les plus polluantes de dévoiler leurs données extra-financières. Ces 1600 entreprises concernées, on donnera quelques noms, ont conjointement pollué davantage que les États membres de l'Union européenne. C'est quoi ? C'est une forme de name and shame, Jezabel ? C'est-à-dire qu'on menace les entreprises en publiant leur nom, on leur demande d'être plus transparentes ?
Oui, alors il y a quand même eu... pas mal d'évolutions en la matière, hein, déjà dans la dans la diffusion, l'obligation de publication des données extra-financières. On en discutait avec Patrick juste avant l'émission. Dans les rapports annuels des grands groupes, vous trouvez toutes ces données-là. Alors, c'est bien qu'on progresse davantage dans la transmission de ces données extra-financières. Après, l'information n'est pas l'action, d'accord ? Donc on progresse avec cela, mais si on n'accompagne pas en fait cette transparence informationnelle de politique publique volontariste pour réellement lutter contre le dérèglement climatique, on n'aura pas beaucoup avancé. Alors peut-être qu'on ne sera pas forcément d'accord avec Nathalie sur le sujet. Je pense que quand on est très confiant dans les mécanismes de marché, eh bien, on se dit qu'en effet, avec plus d'informations, en diffusant la bonne information aux investisseurs, aux clients, eh bien, tout ira bien. Les entreprises vont changer leur mode de production. Les consommateurs, grâce à ces informations, vont changer leur mode de consommation. Et les investisseurs vont réorienter leurs investissements.
La limite, c'est quand même le greenwashing, avec des informations qui ne sont pas toujours exactes.
Alors, il faut les vérifier, ces informations. Et c'est sur cela, d'ailleurs, que l'on devrait essayer de progresser en mesurant l'écart entre ce qui est dit, les engagements qui sont pris, et puis les réalisations. C'est ce suivi-là qui serait intéressant pour faire progresser cette transparence informationnelle. Mais même si on avait ça, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas s'en tenir simplement à une diffusion d'informations.
Dans la liste des 1600, on retrouve des compagnies pétrolières, ça n'est pas surprenant dans l'absolu, Saudi Aramco, ExxonMobil. On trouve aussi Dassault Aviation, Veto Quinol, Volvo, Glencore. Même question, Nathalie Janson, mais est-ce que publier le nom de ces entreprises, c'est forcément la bonne méthode ?
Je pense que la plupart, je pense qu'on les connaît déjà. Enfin, c'est pas une surprise pour ceux qui s'intéressent au sujet. Je pense que pour la vérification de l'information, je pense que les mouvements pro-écologie sont là pour faire leur boulot. À mon avis, enfin, ils sont quand même là, ils alertent, je pense que au niveau de la contre-information et de vérifier si c'est la bonne information, on peut potentiellement avoir quand même des gens qui le font. Maintenant, effectivement, je suis plus convaincue du fait, même si l'État peut aussi avoir, pourquoi pas, signaler la bonne route, mais je pense que la révolution, elle vient quand même de la part des consommateurs et des investisseurs. C'est-à-dire que si effectivement, de plus en plus, et on le voit quand même dans les générations qui arrivent, pour eux, c'est un motif important dans le choix, à la fois de consommer mais d'investir, je pense que ça pourra aller très vite. C'est-à-dire que si effectivement pour vous votre critère de portefeuille c'est d'être sûr que, parce que c'est quelque chose qui change, qui est important pour vous dans vos préférences, parce que voilà, vous y êtes engagé, ça va aller très vite.
Sauf que est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité des entreprises qui ne font pas du tout le même métier ? On sait très bien que c'est beaucoup plus difficile de décarboner quand on travaille dans l'aérien ou le secteur pétrolier que quand on travaille dans le secteur des services.
Oui, tout à fait. C'est un effort aussi de pédagogie, mais à nouveau, on est bien d'accord qu'on va pas pénaliser. Il faudrait ne pas pénaliser de la même façon la façon dont on va évaluer ces entreprises. Elles n'ont pas les mêmes capacités de décarboner, mais en même temps, on peut faire ça à travers l'attribution de poids d'ailleurs, puisque du coup, on va pénaliser plus celles qui pourraient potentiellement dans un secteur se décarboner et qui le font pas. Et puis on va pondérer un peu moins celles qui sont dans des secteurs où on peut moins décarboner, donc on va moins les pénaliser parce qu'elles font ce qu'elles peuvent compte tenu de leur situation.
C'est l'appel d'une organisation britannique, je le disais, qu'on peut peut-être qualifier d'activisme. Le point intéressant, Patrick Artus, c'est que cet appel, il est aussi soutenu par des institutions financières. Mmh. Il y en a 288, et notamment des Françaises, la Française Asset Management, la Banque Postale, Ostrom Asset Management. Pourquoi est-ce que les groupes financiers appuient cet appel ? Il manque d'informations pour effectuer des choix ?
Non, je ne crois pas. Je crois que le problème d'information va se régler assez rapidement. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a une information qui n'est pas homogène. Mais il y a beaucoup d'informations. Si vous ouvrez le rapport annuel d'une compagnie pétrolière, vous avez l'information sur le scope 1, scope 2, scope 3, tous les types d'émissions. Enfin, vous avez beaucoup d'informations. Elle n'est pas complètement homogénéisée. Les instances comptables internationales font assez rapidement publier des normes de production d'informations. Donc, je crois qu'on aura une information. Il y a le problème des groupes publics. Par exemple, vous citiez Saudi Aramco, ça appartient à le royaume d'Arabie Saoudite, et donc ça publie peu d'informations. Des groupes non cotés, qui ont des obligations de publication beaucoup plus faibles que les groupes cotés. Enfin, les grands groupes cotés, y compris dans le secteur du mining, du pétrole, des métaux, etc., publient déjà beaucoup d'informations. Alors, je crois que la finance, dont on dit beaucoup de mal, a pris quand même vraiment la chose à cœur. Il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs, vous citiez des...
Et on en reçoit beaucoup sur ce plateau, les émissions.
Qui font partie de mon groupe, par exemple, et qui sont très en avant sur la sélection d'actifs, sur des critères sérieux de sélection d'actifs. Alors, il y a des débats aussi sur la classification des actifs plus ou moins verts, etc. Et puis, il y a des réformes à venir, mais à nouveau, toutes les règles ne sont pas stabilisées. Mais je crois que la finance fait vraiment un effort de tri dans ses portefeuilles, de privilégier les investissements verts. Dans certains cas, c'est assez facile. Si vous investissez dans un champ d'éoliennes, par définition, c'est vert. Si vous investissez dans la transition énergétique d'un groupe pétrolier, il faut avoir un calendrier et puis il faut avoir des points de rendez-vous sur les 10 prochaines années pour être sûr que ce groupe pétrolier fait ce qu'il a annoncé. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des produits financiers dédiés. On parle de finances de transition. C'est des produits financiers, par exemple, qui vont devenir plus chers pour l'emprunteur s'il ne respecte pas ses engagements. Enfin, la finance a fait vraiment beaucoup d'efforts et il y a effectivement certains groupes financiers qui sont très en avant.
J'ouvre une parenthèse, politique d'exclusion ou d'accompagnement ? Est-ce qu'il faut accompagner les groupes les plus polluants pour les faire changer ? Ou est-ce qu'il faut exclure des portefeuilles les groupes qui sont polluants ?
À nouveau, 75% de l'énergie utilisée en Europe aujourd'hui est brune. Donc, vous ne pouvez pas exclure les groupes qui produisent de l'énergie brune. C'est 75% de l'énergie que nous utilisons. Et donc, d'abord, il y a une bonne nouvelle. Vous savez qu'en 2021 et 2022, l'Union européenne a augmenté la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique de façon cohérente avec la neutralité carbone nette en 2050. Donc, pour la première fois, sur ces deux dernières années, on a une baisse des émissions de CO2 et on a une hausse de la part des énergies renouvelables qui nous amène à la neutralité carbone en 2050. Donc toutes ces actions quand même produisent, alors je ne parle pas de l'Inde, etc., mais en Europe on a maintenant la visibilité sur une trajectoire qui arrivera à la neutralité carbone.
Restez avec nous, la suite des experts dans un instant. Je vous donnerai quelques réactions par rapport au sujet qu'on vient d'aborder et puis on parlera des autres sujets. Est-ce qu'il faut mettre en place un ISF vert, réinstaurer l'impôt sur la fortune? C'est une proposition un peu surprenante de l'économiste Jean Pisani-Ferry. Et puis on parlera de la dédollarisation. Nathalie Janson veut en parler. Le sujet apparemment lui est cher. C'est un serpent de mer, on en parle depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le contexte est différent? On en parle dans un instant. Restez avec nous.
Est-ce la bonne décision? Est-ce trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business.
Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Deuxième partie des experts avec toujours nos trois experts en plateau. Nathalie Janson, professeure à la Neoma Business School. Jezabel Couperet-Soubiran, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Patrick Artus, directeur de la recherche économique de Natixis. Avant d'aborder les autres sujets, je vous donne quelques réactions. D'abord Michel qui nous dit le progrès humain pose question parfois. Quid du clonage dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. C'est vrai qu'on pourrait faire le parallèle avec l'intelligence artificielle. Réaction également de Vincent Auriac, c'est le président d'Axilia. Il est souvent invité sur notre plateau. Il nous dit que c'est surtout les banques qui ne publient pas toutes leurs émissions de CO2, notamment le fameux Scope 3, c'est-à-dire les prêts, les participations qui représentent 93% des émissions totales des banques. Patrick Artus, une réaction.
Bah, écoutez, ma banque publie un détail de son portefeuille.
Natixis.
Publie. Enfin, effectivement, on ne peut pas demander à une banque d'être verte immédiatement, de financer que des investissements verts. Mais par exemple, nous avons une règle qui pénalise financièrement un prêt lorsqu'il ne correspond pas à un besoin vert ou un besoin de transition.
Mais est-ce que c'est réaliste
interne,
de demander
une règle interne, qui est assez généralisée.
Est-ce que c'est réaliste de demander à une banque de ne plus financer les groupes qui utilisent des énergies fossiles, ceux
mais
qui
non,
n'ont pas...
Mais non, c'est pas réaliste. Mais à nouveau, nous utilisons encore 75% d'énergie fossile dans l'UE. Et ce chiffre baissera progressivement jusqu'en 2050 où ça sera à peu près 10%, et ces 10% feront l'objet de capture du carbone, donc ils seront plus émis dans l'atmosphère. Et donc il faut accompagner la baisse. Le débat avec les clients des banques, c'est la baisse de vos émissions de CO2 ou de votre utilisation d'énergie fossile est-elle ou non cohérente, par exemple, avec les accords de Paris. Les accords de Paris, c'est 1,5 degré de réchauffement, donc c'est très exigeant. Il y a certains clients qui disent oui, mais on va faire plutôt 2 degrés, et donc faut quand même être un peu plus souple. Mais le message est passé quand même que on peut pas arrêter complètement de financer les énergies fossiles. Vous arrêteriez complètement de financer tous les groupes pétroliers des pays occidentaux.
C'est non, mais je comprends impossible. La cohérence de votre raisonnement, mais est-ce que les banques le disent forcément ?
Écoutez,
c'est toujours gênant quand on est une banque de dire on est obligé de continuer à financer.
Oui, mais il y a des positions extrêmes. Enfin, la plupart des banques du monde occidental que je connais font l'effort. Pas certaines banques régionales américaines ou etc. Mais les grandes banques internationales font l'effort de cohérence avec les engagements climatiques internationaux dans l'extrapolation de leur portefeuille. Mais aujourd'hui, 75% du portefeuille est brun, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est inévitable.
Isabelle.
Ouais, moi, il me semble que ce qui est pas réaliste, hein, c'est d'imaginer qu'on va pouvoir continuer à extraire des énergies fossiles. Hein. Si on lit les rapports du GIEC, on sait que il faut les laisser dans le sol désormais, sinon c'est le suicide collectif. Donc il faut voir de quel côté est le réalisme. Je pense que le réalisme est du côté de ceux qui considèrent que il faut cesser d'utiliser des énergies fossiles. Donc il faut adapter les politiques publiques en conséquence, et au niveau de l'actif des banques, eh bien il faut absolument les amener à réduire de manière drastique les financements allant vers des activités extractives, vers des activités polluantes, trop émettrices, et encourager le financement des activités qui sont compatibles avec la transition ou qui la favorisent, qui l'accélèrent. Donc la réglementation bancaire doit vraiment évoluer en la matière, parce que la règle dont parlait Patrick, c'est une règle interne. Natixis, c'est un outil très intéressant.
C'est plein de banques.
D'accord, mais on n'en est pas encore au niveau de la réglementation bancaire à pénaliser des financements carbonés.
Isabelle, même ça, c'est pas réaliste. Un champ de pétrole, ouais, si on n'investit pas dedans, diminue sa capacité de 5 ou 6%
par an. Tant mieux.
Et ben donc, les voitures rouleront plus, les trains rouleront plus, etc.
Oui, on en utilisera moins.
Oui, mais il y a des emplois, il y a des transitions d'emplois.
Il faut aligner.
Mais c'est quoi la position réaliste ? C'est la position qui nous mène au suicide collectif ?
Non, aligner sur les accords de Paris, par exemple. Aligner la décroissance de l'utilisation des énergies fossiles, oui, ce qui nécessite un certain nombre d'investissements encore dans les énergies fossiles, oui, en décroissance.
Pour accompagner.
On a peu de temps pour agir, mais
accompagner les accords, oui, de Paris de façon cohérente.
Tout à fait. Ce qui
nous amène à 2050 en Europe à la neutralité carbone nette. Mmh. Ça nous amènera pas du tout à la neutralité carbone nette dans le reste du monde.
Mmh. Hein, oui.
Mais tu peux pas arrêter totalement.
Il y a des seuils d'irréversibilité qui vont.
On n'en est pas
qui
loin.
Vont être, oui. Non, qui vont être franchis à mesure qu'on dépasse les limites planétaires. À l'horizon 2050, on ne sait pas du tout, en fait, dans quel état on sera.
D'accord ? Avec des choix, parfois, excusez-moi, en trompe-l'œil, on nous parle beaucoup de la voiture électrique en ce moment. Mm-hmm. Quand on importe des batteries pour les voitures électriques mm-hmm. de Chine, elles sont essentiellement produites avec de l'énergie carbonée.
Tout à fait. Mm-hmm.
Ces voitures-là mm-hmm. arrivent en Europe avec une dette carbone considérable. Oui. Oui. Par rapport à des coup, voitures thermiques de dernière génération.
Elles ne seront pas aidées officiellement par la Commission.
Mais c'est bien pour ça que dans l'équation, il faut surtout mettre de la sobriété. D'accord ? C'est pas simplement en remplaçant, en effet, des voitures à essence par des voitures électriques sans rien changer à nos modes de transport et à la densité de nos déplacements qu'on s'en sortira, bien sûr.
Vous voulez réagir ? Nathalie.
Non, je pense que je suis plutôt effectivement d'accord avec Patrick Artus. Je pense que c'est des choses qui sont maintenant effectivement enclenchées, qui prendront du temps. Moi, je suis effectivement, comme j'ai dit sans doute, je suis un peu naïve de nature et un peu très optimiste, mais je ne pense pas qu'on va vers un suicide collectif. Je pense que de toute façon, de la même façon, on ne sait pas aujourd'hui des innovations qu'on pourra trouver face à l'urgence de la question. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas non plus quelles innovations vont pouvoir être déployées face à quelque chose qui deviendrait urgent. Je pense que c'est surtout l'innovation qui viendra sauver la transition climatique, c'est l'innovation qui aura les solutions.
Pardonnez-moi, parce que il est là l'irréalisme. Hein. L'irréalisme, ben,
non,
c'est
il n'est pas là. Parce que quand on voit.
Sur les innovations,
non, ben, ça, c'est la politique
sortir.
Américaine.
Non, c'est pas vrai. Puisque de toute façon, regardez aujourd'hui les pays qui subissent le plus au niveau des aléas climatiques et des catastrophes, c'est bien les pays les moins développés et pas les pays les plus développés.
Bien sûr,
on a des réponses technologiques, mais on a des réponses technologiques.
Ils pâtissent de notre surdéveloppement, mais pas du tout.
En l'occurrence, nous, on est capable de résister parce qu'on a de la technologie. C'est bien la technologie qui répond au problème. C'est pas de ne plus rien faire.
Parce qu'en fait, les pays du Sud, là, si j'entends bien le raisonnement, sont responsables.
Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient responsables. J'ai dit qu'on est plus on est développé, plus on est capable d'adresser les défis qui sont posés par l'aléa climatique, c'est tout. Et c'est une évidence. Donc, il vaut mieux se développer les pays pour qu'ils aient des réponses technologiques plutôt que de ne pas être développés.
C'est cette recherche effrénée de la croissance.
La croissance, elle nous a fait quand même vivre jusqu'à 100 ans aujourd'hui, quasiment, enfin, avec une hausse de l'espérance de vie qui est quand même formidable, avec un soutien on a doublé la population depuis, en l'espace de 20-30 ans. Donc, faut quand même pas exagérer. On s'est pas autodétruit. Donc, moi, j'ai un peu de mal avec. J'ai un peu de mal avec l'idée de l'autodestruction.
Une question qui va peut-être vous mettre d'accord. Est-ce qu'il faut taxer les plus riches pour financer la transition ?
Ah bah, ça va pas nous mettre d'accord.
C'est la proposition de l'économiste Jean Pisani-Ferry dans un rapport qui a été remis la semaine dernière à la première ministre Elisabeth Borne. Ça a suscité beaucoup de réactions. L'ISF vert, l'impôt sur la fortune vert, c'est une bonne idée, Jezabel ?
D'abord, c'est un rapport intéressant qui a le mérite de mettre l'accent sur l'importance des investissements nécessaires, qui met également en avant le fait que on n'aura pas beaucoup de marge budgétaire pour réaliser ces investissements et surtout pour combler le manque. Donc ils mettent sur la table une proposition de prélèvement obligatoire supplémentaire. Alors, soit sous la forme que vous mentionnez, soit un prélèvement obligatoire exceptionnel sur les 10% les plus aisés. Alors, je pense que
est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice quand même ? On pollue tous.
Ah bah les riches polluent plus.
Mais dans la mesure où on est tous des consommateurs, nous sommes tous des consommateurs, on pollue tous.
Ce sur quoi insiste le rapport, c'est sur le besoin, et ça c'est, je pense que c'est vraiment un atout dans ce rapport, c'est sur le besoin d'équité. Il faut que cette transition écologique soit aussi une transition juste. Donc il est normal, en effet, de faire contribuer davantage les plus aisés. Cela étant, je pense que même si vous voulez cette manne-là, si tant est qu'elle soit exploitable, ce dont je ne suis absolument pas sûre, même cette manne-là ne suffira pas. C'est-à-dire que c'est pas avec les 150 milliards de prélèvements exceptionnels sur les 10% les plus aisés quand vous, si vous arrivez à taxer leurs 3000 milliards d'actifs nets, qui permettra en fait de combler le manque d'investissement sur 10 ans qu'ils estiment à 66 milliards par an, d'accord, sur 10 ans. Et je pense même que... Alors, ce type d'estimation dont certains disent c'est une estimation assez élevée, moi, il me semble qu'en fait, c'est encore très largement sous-estimé. Précisément, si on met l'accent sur le besoin d'une transition juste, on a besoin d'énormément de dépenses d'accompagnement. Ça, c'est dans aucun rapport estimant les besoins de transition écologique. Et pour ces dépenses d'accompagnement, qui sont des dépenses sans retour financier, eh bien, on ne peut pas utiliser la dette. On ne peut pas utiliser l'impôt. Il faut autre chose pour ça. Il faut inventer un mode de financement sans retour, sans exigence en fait, sans exigence de remboursement. Il faut de la subvention publique, une subvention publique qui ne repose pas sur l'impôt, parce que si vous voulez pouvoir augmenter les impôts, il faut plus de croissance. Si vous avez plus de croissance, eh bien, vous avez encore plus de dérèglements climatiques. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut inventer autre chose.
Le problème de l'ISF, puisqu'il en est question, c'est qu'il rapporte assez peu par rapport aux besoins de financement de la transition.
Complètement, c'est bien moins que les 150 milliards de prélèvements exceptionnels sur les 10% les plus.
Du coup, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans le totem politique
C'est plus une question symbolique de justice sociale. C'est une marque de justice sociale, mais c'est effectivement pas une manne financière permettant de combler le gap de financement.
Patrick, vous connaissez Jean Pisani-Ferry, j'imagine. Oui. Ça vous a surpris, cette proposition ?
Non, alors, il faut remonter au problème de départ. Hein. On va devoir investir beaucoup. Mmh. Et comme Jésabelle, je pense que Jean a des estimations qui sont un peu en dessous des estimations consensuelles. Mmh. Enfin, bon, disons qu'il va falloir qu'on investisse au moins 3 points de PIB de plus pendant 30 ans, quoi. Je veux dire, chaque année pendant 30 ans.
Enfin, une paille, hein.
Oui, mais il faut voir qu'on va jeter plein de capital. Vous avez une usine sidérurgique, elle utilise du coq aujourd'hui pour ses hauts fourneaux. Vous allez jeter les hauts fourneaux et vous allez les remplacer par des hauts fourneaux fonctionnant avec de l'hydrogène. Il faut financer l'installation d'hydrogène, la tuyauterie d'hydrogène, la fabrication d'hydrogène. Donc c'est un besoin d'investissement considérable.
Donc ça veut dire quoi ? Tout ça va créer des emplois et
de
la croissance.
Oui, alors non, pas forcément. Alors pas forcément, parce que à nouveau, vous détruisez du capital. Vous remplacez du vieux capital par du capital vert, quoi. Donc c'est une substitution de capital. Et alors, le besoin qui est tout à fait irrémédiable, c'est un besoin de générer plus d'épargne. Vous avez besoin d'investir plus, donc vous avez besoin de plus d'épargne. Et alors, plus d'épargne, comment est-ce que vous pouvez obtenir plus d'épargne ? Ben, vous pouvez obtenir plus d'épargne uniquement par deux méthodes. Une méthode qui est qu'il y aura spontanément plus d'épargne. Les Allemands et les Français épargnent énormément, voilà. Épargnent beaucoup plus qu'avant la crise de la Covid, et on fait un effort d'épargne qui finance à peu près la transition énergétique. Donc, ça arrive qu'on ait spontanément plus d'épargne. Et puis, s'il n'y a pas plus d'épargne spontanée, bah, la seule solution, c'est l'impôt qui amène de l'épargne à l'État, qui est l'État qui finance.
Il peut y avoir plus de monnaie aussi, hein. Il peut y avoir plus de monnaie créée. Justement à cette fin-là.
Plus de monnaie, c'est la même chose que plus d'épargne.
Ça va plus vite en tout cas.
On parlera de la création monétaire dans un instant. D'abord, Nathalie, peut-être une contribution.
Je suis d'accord avec Jésabelle sur le fait que l'ISF ne résoudrait pas en termes de montant. Par contre, je suis pas d'accord sur le reste, évidemment. Mais
est-ce qu'il faut mettre à contribution les plus riches parce qu'ils polluent plus ?
Pense que c'est vraiment la recette française qui ne sera pas assez efficace, vraiment. Enfin, je pense que c'est vraiment pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Par contre, je soutiens et je relaie la proposition qui a été faite, je crois, sur ces plateaux il y a quelques jours par Erwan Tison de l'Institut Sapiens, qui parlait du financement. Donc c'est une note qu'ils ont publiée, qui parlait en fait de comment en fait on pouvait allier le financement de la transition avec aussi le développement de la capitalisation pour les retraites. Et en fait, où il disait, eh bien, il faut orienter ce pourcentage qu'on taxe sur les salaires, justement, pour les mettre sur de la capitalisation, donc la retraite par capitalisation sur la transition verte. Donc là, le gouvernement flèche directement et ce serait une obligation, si vous voulez, et ça réunirait à la fois le fait que pour les retraites, on peut peut-être améliorer la rentabilité du financement de la retraite en ayant plus de capitalisation et on rejoindrait l'objectif vert. Voilà, donc je trouvais la proposition extrêmement intéressante, donc c'est pour ça que je me permets de la relayer.
Est-ce que c'est en approfondissant le capitalisme financier que l'on arrivera à lutter contre le dérèglement climatique, on peut quand même largement en douter.
En tout cas, voilà ce qu'a dit,
un plan assez voisin, honnêtement, qui est de développer de l'assurance vie.
Oui, voilà, exactement.
Et qui serait l'assurance vie à long terme, qui serait pas de l'assurance vie mobilité.
Oui, tout à fait.
Isabelle parlait un instant de création monétaire. Le problème de la création monétaire, c'est qu'elle doit être équilibrée entre les différents blocs, sinon on fragilise une monnaie si elle est excessive. Ça nous amène à notre dernier sujet, la dédollarisation. Nathalie y tenait particulièrement, elle voulait en parler aujourd'hui. Est-ce que le mouvement est vraiment en train de s'accélérer? J'ai fait un peu de recherche, on en parle depuis très longtemps, la dédollarisation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça aurait plus de sens de croire en la dédollarisation qu'il y a 10 ou 20 ans?
Alors, aujourd'hui, il y a un facteur qui est effectivement différent, c'est qu'en fait, on a un volet géopolitique très fort. Avec la guerre en Ukraine, on a vu le problème des sanctions, le rôle de SWIFT, et donc les pays qui ne sont pas pro-américains se sont dit... effectivement, le dollar nous expose à un risque, puisqu'à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec les États-Unis ou il y a un problème, on peut se faire bloquer.
C'est l'extraterritorialité.
Voilà. Il est temps peut-être de se révolter et de faire. Donc là, c'est pour ça que ce mouvement de dédollarisation est peut-être un peu différent de ce qui a pu arriver avant. C'est que là, on voit une forte composante en fait géopolitique qui veut essayer d'avoir une alternative. Maintenant, pour tempérer les craintes, le dollar, en fait, il y a déjà eu, comme vous l'aviez dit, il y a déjà eu cette idée qu'on allait dédollariser avec des réserves en baisse. Quand on dit des réserves en baisse, c'est qu'en fait, on a des réserves qui sont à 60% en dollars, avec après de l'euro, après d'autres monnaies. Contre avant 72 entre 75. Donc voilà, donc souvent on revient de 75 à 60. Ça c'est, mais les réserves ne sont pas significatives. Ce qu'on veut, c'est voir si dans les faits, dans l'activité économique, parce que les réserves c'est ce qu'ont les banques centrales. Mais ce qu'ont les banques centrales, c'est pas l'activité de tous les jours. Ce qui est important de regarder, c'est comment le dollar est utilisé. Et il a pas beaucoup bougé en fait. Je suis désolée de décevoir beaucoup, mais le dollar fait toujours, alors sur le marché d'échange qu'on appelle le forex, il est à 90%. Le dollar est à 90% dans les paires en fait d'échange. Il est à 50% dans les façons dont on fait les contrats, c'est-à-dire donc la monnaie qui est utilisée dans les contrats, et de la même façon, c'est presque 50% de toutes les transactions faites par SWIFT. Donc on voit bien que le dollar est dominant. D'ailleurs, l'euro n'a pas beaucoup grignoté sur le dollar. Il a eu un rôle plus important dans la dette, l'émission de dette sur les marchés. Et là, l'euro effectivement a beaucoup augmenté par rapport à ce qu'était le Deutschmark à l'époque. Mais si vous le regardez dans les réserves, on n'a pas bougé de l'époque du Deutschmark. On est entre 20 et quelques pourcents, parfois ça monte à 30, mais c'est tout. Donc en fait, il n'y a pas la dédollarisation. La seule nouveauté, c'est qu'effectivement, on a cette arrivée d'une alliance entre la Chine, l'Inde, la Russie, l'Arabie Saoudite, qui ont tous la même position. La Chine y voit un moyen de s'imposer, parce qu'en même temps, elle a créé son fameux yuan digital, et qu'elle se dit que c'est peut-être une façon d'aller le mettre sur le marché de la monnaie digitale. Voilà, donc c'est la seule différence par rapport à avant.
Patrick Artus.
Oui, alors, comme dit Nathalie, le seul chiffre qui montre une baisse de la part du dollar, c'est le chiffre des réserves de change des banques centrales, et qui n'est pas pertinent. C'est essentiellement dû au fait que la Chine, depuis 10 ans, a utilisé son argent à faire d'autres choses qu'à le prêter aux États-Unis, à faire des investissements dans les pays émergents, c'est les routes de la soie, etc. Donc, et dans toutes les autres données d'échanges sur les marchés financiers, etc., le dollar et de transactions commerciales, le dollar garde sa place.
Est-ce que la guerre en Ukraine a changé un petit peu la donne?
Non, alors je ne crois pas. Je crois profondément que c'est très inefficace d'avoir plusieurs monnaies de réserve dans le monde. Si vous aviez le dollar, le yuan, l'euro, etc., vous passeriez du temps à faire des conversions, etc. Alors ça enrichirait les banques d'investissement, mais c'est très inefficace.
Oui, mais alors on donne un avantage compétitif aux États-Unis.
L'histoire nous montre qu'une monnaie remplace brutalement une autre monnaie. Par exemple, le remplacement de la livre sterling par le dollar après la Première Guerre mondiale, c'est extrêmement brutal, c'est en quelques années, et le dollar devient la monnaie dominante, et le poids de la livre sterling s'effondre. Et donc, je crois qu'il faut plutôt chercher dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a une monnaie qui peut remplacer le dollar dans tous ses rôles? Et la réponse est non. Le renminbi n'est pas convertible, l'euro est complètement segmenté, il y a plein d'émetteurs, etc. Il n'y a aucune autre monnaie qui est capable d'assurer les fonctions du dollar.
Jezabel. Ouais,
je suis assez d'accord hein, avec ce qui vient d'être dit. Il est vrai que c'est un véritable serpent de mer, ce sujet. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses fois entendu parler d'un rééquilibrage du système monétaire international avec la montée en puissance attendue de l'euro, ce qui s'est pas franchement produit. À un moment donné, on parlait également de la capacité du yuan à se faire une place, ce qu'on n'observe pas vraiment. Donc, je suis d'accord avec ça. En même temps, je crois qu'il y a quand même, il y a des tendances de fond. Alors qu'ils sont peut-être encore très très au fond, mais on voit bien que la tectonique des plaques géopolitiques est en train de changer fortement, avec des blocs qui se constituent, et ça va avoir une traduction sur le plan monétaire et financier. Elle n'est pas encore manifeste, mais il va y avoir une traduction à ce niveau-là. Et puis, plus fondamentalement, je pense que c'est aussi notre système monétaire qui est en quelque sorte à bout de souffle. C'est le système monétaire qui a accompagné l'expansion du capitalisme marchand, industriel, financier. Si on veut précisément réaliser la bifurcation sociale et écologique dont on parlait juste avant, je crois qu'il va falloir transformer en profondeur ce système monétaire, et qu'il va se transformer pour rendre possible cette transformation. Donc, il me semble qu'il y a quand même des mouvements de fond encore assez difficilement perceptibles, mais le mode de création de la monnaie va sans doute se transformer. Ça dépasse de très loin la question spécifique du dollar, mais il y a du mouvement dans les tectoniques à la fois géopolitiques et monétaires.
Nathalie, rapidement.
Je vais juste rebondir. Effectivement, comme l'a dit Patrick Artus, en fait, les systèmes monétaires, c'est un effet de réseau. Donc, en général, il n'y a qu'une monnaie qui domine. Ça n'a aucun intérêt d'en avoir plusieurs. Donc, on se demande qu'est-ce qui pourrait substituer effectivement aujourd'hui le dollar. Alors, avec la montée de la Chine, le seul limite que je vois, c'est qu'en fait, le dollar domine essentiellement par son rôle financier, parce que c'est le marché financier du monde. Et en fait, la Chine n'a pas envie d'aller là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine a une monnaie qu'elle contrôle encore beaucoup. Et donc, en fait, elle est prisonnière, parce que si elle contrôle sa monnaie, elle peut pas avoir un rôle réellement international, parce qu'il faut accepter d'avoir une monnaie qui nous échappe. Or, c'est pas du tout le set of mind, si je peux me permettre. Donc, l'état d'esprit des Chinois qui, en fait, ne supportent pas de pas pouvoir contrôler. Donc, il y a une espèce de schizophrénie de la part des Chinois, où en même temps, ils aimeraient être les premiers, mais en fait, ils peuvent pas. Oui. Par construction.
Mais il y a une quinzaine d'années, la Chine a pris la décision explicite de ne pas passer une économie de marché financier et de rester une économie de banque publique.
Exactement.
Et donc, quand vous avez une économie qui est financée par les banques publiques, vous ne pouvez pas avoir une monnaie internationale.
Il nous reste 3 minutes, c'est très peu, mais j'aimerais qu'on aborde un sujet. Patrick Artus y tenait, c'est l'annonce de S&P vendredi. Est-ce que la France va être dégradée? Nous sommes notés double A chez S&P. Est-ce qu'il y a des raisons objectives de penser qu'on va être dégradé, vous qui êtes économiste?
Je pense que... Enfin, je ne sais pas du tout ce que va faire S&P.
Bien sûr, mais
est-ce qu'il y a des... je pense que si le programme de stabilité qui a été déposé par le gouvernement français est respecté, il n'y a pas de raison de dégrader la France. Et donc, je pense que c'est un peu tôt pour savoir. Donc, on saura dans 2 ans... Si les dépenses publiques augmentent 1 point de moins que le PIB, si le taux d'endettement public diminue, si les déficits publics sont sous contrôle, et si ça n'obère pas les dépenses importantes, par exemple, de transition énergétique. Aujourd'hui, c'est extrêmement tôt pour savoir. Vous avez un programme de stabilité financière. Si le gouvernement est de bonne foi en déposant ce programme, il n'y a pas de raison que la France soit downgradée. S'il n'est pas de bonne foi, la France sera dégradée dans 1 an, dans 2 ans.
Mais quand Fitch écrit, c'était dans les commentaires qui ont accompagné la dégradation il y a 3 ou 4 semaines, que les mouvements sociaux en France compromettent les possibilités de réforme, Fitch fait de la politique. Fitch ne fait pas d'économie.
Oui, mais enfin bon, c'est un peu exagéré, mais je pense profondément, les États européens devraient passer, si on respecte les règles, à une politique d'austérité budgétaire. Et est-ce qu'ils vont le faire?
Rapide tour de table.
Oui, et donc si on passe à une politique d'austérité budgétaire, eh bien les déficits seront réduits d'autant. Et si on n'a pas ces marges de manœuvre, comment financera-t-on la transition écologique? Comment va-t-on combler ce manque d'investissement? On voit bien qu'en fait, il faut à la fois s'affranchir de la pression du marché, s'affranchir de la dette, ne pas tout voir non plus dans l'augmentation de la pression fiscale parce qu'il y aura des luttes à n'en plus finir. Il y a des transformations dans les modes de financement à opérer.
Nathalie Jean.
C'était juste pour rebondir sur Fitch. En fait, Fitch a pris l'exemple des tensions sur les retraites comme étant le problème de décision au niveau des députés, en mettant en lumière qu'en fait, comme il n'y a pas eu de pré-coalition, enfin, on n'a pas, le gouvernement n'a pas essayé d'avoir des alliés permanents dans les pour appuyer en fait les réformes qu'ils voulaient faire, ils mettaient en doute leur capacité justement à pouvoir aligner leur plan qu'ils présentent et que ce plan devienne réalité. C'est ça, c'était de montrer que le problème des retraites avait mis en exergue qu'il n'y avait pas, que le gouvernement ne s'est pas allié des membres de LR pour pouvoir en fait porter les réformes. Et c'était ça qui les inquiétait.
Merci.
De fait, on saura que dans deux
mais
ans,
effectivement, c'est sinon, on saura
la
qu'après.
Trajectoire des finances publiques.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Jézabelle Coupès-Soubéran, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Nathalie Janson, professeure à la Neoma Business School, et Patrick Artus, directeur de la recherche économique sur Natexis. Merci beaucoup pour la richesse de vos interventions, je dois dire, c'était très, très intéressant. Demain, fini de jouer. Nicolas Dos sera de retour aux commandes des experts. Passez une très bonne journée.